Notre invitée ce soir, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. C'est votre deuxième candidature. On a une candidate lutte ouvrière depuis 8 élections maintenant, sans interruption, après 6 candidatures d'Arlette Laguiller. D'abord, c'est votre deuxième campagne. Juste votre sentiment, comment vous le vivez par rapport à la première? Est-ce qu'elle est plus dure, plus délicate? Comment vous la voyez cette campagne actuellement?
C'est sûr qu'avec les divisions, les ralliements, les démêlés judiciaires, on peut dire qu'il y a un peu plus de piquant, hein, voilà. Et en même temps, c'est un peu la même comédie électorale, hein. Ils arrivent tous avec leur programme. Ah, là-dessus, ils ont des super communicants, hein. Voilà, ils visent, voilà, les agriculteurs, les jeunes, les retraités. Il y a la petite mesure là pour tout le monde. Et puis la réalité, c'est qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont jeter tout ça à la poubelle, hein, parce qu'ils vont se mettre aux ordres, toujours des mêmes. Du grand patronat, et ils appliqueront la politique qu'il dictera. Voilà, donc on est confronté toujours à la même comédie, voilà, en réalité. Et moi, j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à ne pas se laisser abuser. Voilà, dans cette campagne, il faut qu'ils fassent entendre leur voix, leurs besoins, leurs intérêts, qu'ils disent ce qu'il est nécessaire pour eux, de leur point de vue, et qu'on ne se laisse pas prendre à ces belles promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, encore une fois.
Alors, je voulais juste votre vision, avant de parler ensemble avec Bruno Jeuny et Pauline Tadevin, cet appel de Manuel Valls, qui décide de voter pour Emmanuel Macron, le rapprochement Hamon-Mélenchon qui n'a pas lieu, comment vous regardez, vous, ce qui s'est passé hier?
D'abord, il n'y a aucune surprise dans tout ça. Mais alors vraiment, aucune surprise. Hein. Alors, il s'engage un jour devant hein, la France, le peuple, etc. Le lendemain, il renie leurs paroles. Hein. On l'a vu aussi. Fillon a fait pareil. Hein. Alors, la valse, bon, voilà. Pour moi, tout ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Hein. C'est des péripéties politiciennes. Je crois que pour les travailleurs, pour tous ceux qui étaient qui ont vécu ce quinquennat, qui se sont battus y compris contre la loi El Khomri, hein, ils ont quand même bien vu que cette gauche gouvernementale, avec Macron dedans d'ailleurs, hein, menait la même politique que la droite. Donc voilà, je crois qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de distance et que les travailleurs
des péripéties voilà. Politiciennes, mais quand même sur le Parti socialiste, ça dit des choses. Manuel Valls qui ne veut pas voter pour Benoît Hamon, c'est quand même... et qui préfère un autre ministre, comme vous disiez, Emmanuel Macron, qui n'est certes pas au Parti Socialiste, mais qui était ministre, ça dit quand même des choses sur le schéma de la gauche, qui jusqu'à présent, lorsque vous étiez candidate il y a 5 ans, voilà, il y avait la candidature de François Hollande, ça a évolué quand même.
Mais justement, ce qu'on constate, c'est que les partis qui se succèdent au pouvoir, la droite aussi, est en mauvaise situation.
Non,
je ne sais pas si vous avez remarqué.
Mais on va en parler. Mais sur la gauche, quand même, votre sentiment,
cela signifie qu'effectivement, les partis qui se relaient au pouvoir se disqualifient progressivement parce que justement, en fait, ils font la preuve hein, qu'ils ne font pas progresser la condition ouvrière, qu'ils sont obligés de se renier, en réalité, de faire la même politique qu'on connaît depuis des décennies maintenant, hein, c'est-à-dire de dérouler le tapis rouge aux plus riches, au grand patronat, de le laisser faire ce qu'il veut, c'est-à-dire supprimer des emplois, licencier, fermer des usines, aggraver les conditions de travail. Alors évidemment, petit à petit, l'électorat finit par quand même se poser des questions. Donc effectivement, ils sont fortement discrédités et donc on assiste à une crise politique, oui, du système de l'alternance gauche-droite qui est complètement déconsidérée. Hein. Et moi, je peux vous dire que je ne regrette pas ça. Parce que la réalité, c'est que c'était une duperie. Hein. Ils alternaient au pouvoir pour faire la même politique.
Ils n'améliorent pas la condition ouvrière, mais le problème, c'est que dans les études, quand on regarde, les ouvriers, c'est plutôt une autre candidate qui est d'ailleurs à sa deuxième candidature, elle aussi, comme vous. C'est Marine Le Pen, hein, qui était là en 2012. Et c'est presque un ouvrier sur deux qui dit vouloir voter pour Marine Le Pen. Donc, où est la voix? Les ouvriers, ils s'intéressent pas ils veulent pas voter pour vous.
Ils se sont sentis trahis, ils sont complètement déboussolés, désorientés par cette gauche gouvernementale. Parce que c'était l'électorat, effectivement, du Parti communiste, l'électorat du Parti socialiste, qui aujourd'hui est complètement sans boussole. Et prêt, effectivement, à se jeter dans les bras de n'importe quel charlatan. Parce que Marine Le Pen, c'est exactement ça. Hein, Marine Le Pen veut inventer des boucs émissaires, veut dresser les travailleurs les uns contre les autres, se saisir hein, de leurs différences, parce que, bah oui, il y a des travailleurs d'origine étrangère, hein, d'autres couleurs de peau, d'autres religions, mais jamais elle ne veut s'en prendre à ceux qui décident, ceux qui dominent nos vies, ceux qui mènent une guerre féroce, en fait, au monde ouvrier, c'est-à-dire cette classe capitaliste qui, à la fois, accumule des richesses inouïes...
Elle s'en prend à l'Union Européenne, à la Commission de Bruxelles.
Exactement. Mais non. Pas du tout. Vous n'avez. Ah, vous, dites donc, vous n'avez pas du tout suivi notre politique, monsieur Jeudy.
Vous n'allez quand même pas me dire que, vous, êtes, que vous défendez l'Union européenne et la Commission de Bruxelles.
Alors, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que dire que l'Union européenne est responsable de tout cela, c'est faire diversion. Et c'est masquer les véritables responsables, c'est masquer ceux qui décident. Parce que le patronat n'a pas eu besoin de l'Union européenne pour faire la loi El Khomri, pour augmenter le temps de travail, pour aggraver les cadences. Ça, c'est dans l'ADN hein, du grand patronat, de pressurer les travailleurs comme des citrons. Et moi, j'ai toujours dit, attention, attention, on nous montre l'Union européenne pour justement qu'on laisse ce grand patronat agir comme il veut, alors que je pense au contraire que les travailleurs doivent être conscients qu'il y a une guerre féroce qui est menée contre eux et qu'ils doivent s'organiser et y répondre.
Mais pour rebondir sur ce que dit Bruno, cette élection, elle est marquée donc parce qu'on sent qu'il y a une abstention massive, en tout cas des gens qui n'arrivent pas à se décider. On a un Front National très élevé. Vous êtes la candidate des travailleurs, vous en parlez. On a entendu le fameux travailleuse-travailleur d'Arlette Laguiller, donc c'est identifié à lutte ouvrière. Comment vous expliquez que votre score ne gonfle pas, que vous n'arrivez pas à attirer ceux qui soit veulent s'abstenir, soit qui sont tentés par le Front National?
Alors d'abord, je trouve que c'est quand même un mauvais procès quand on voit, et vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, qu'il y a quand même deux campagnes parallèles. Aujourd'hui, on nous présente, enfin, depuis le début de cette campagne, 5 candidats. Les autres, ce sont des petits candidats, ils sont là pour le décor en fait. Hein. Voilà ce qu'on essaye d'ancrer dans la tête.
Nicolas Dupont-Aignan, il a réussi à monter à 8%.
Oui, alors voilà. Il a aussi un peu un autre traitement médiatique, vous remarquerez. Mais voilà, alors évidemment, moi on me renvoie à mes scores, hein, toujours. Mais encore une fois, voilà, je ne joue pas à armes égales, y compris avec Marine Le Pen, par exemple, hein, sur effectivement pour faire cette campagne. Alors maintenant, en même temps, je sais aussi que, oui, le courant que je représente est minoritaire, ça c'est vrai. C'est vrai que ça représente 200 000, 300 000, j'espère plus encore cette année. Mais je dis que ceux qui vont reprendre ce programme, dire bah non, on se résigne pas, on est prêt à se battre, à se défendre, et on ne croit pas dans cette comédie électorale, dans ces politiciens qui reviennent tous les 5 ans, etc. Eh bien, ce sera justement bah, les travailleurs qui seront les mieux à même et bah, à faire avancer le camp des travailleurs. Parce que justement, ils font preuve de combativité, ils font preuve de conscience. Donc moi, je suis fière, effectivement, hein, de porter ce camp-là, celui qui ne se résigne pas.
Alors, pourquoi, par exemple, on va en parler tout de suite avec Pauline Tadevin, déjà, juste pourquoi ne pas mettre pot commun avec le NPA, notamment, de Philippe Poutou, pour doubler le score?
Et alors, on aurait le score doublé, mais on aurait eu deux fois moins de temps de parole qu'une seule campagne à la place de deux pour convaincre. Parce que moi, ce que je cherche, et Philippe Poutou aussi, je pense, hein, c'est pas évidemment de gagner l'élection.
Mais quelle différence entre vous deux?
Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je cherche à gagner les consciences, les cœurs des travailleurs, à leur dire, eh bien, écoutez, ne vous raccrochez pas à tous ces candidats qui sont les représentants de la grande bourgeoisie, qui sont fondamentalement dévoués à cet ordre social, qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Donc moi, je veux les gagner à cela, à leur dire, les travailleurs, ils ont une politique, ils ont un programme, ils ont des perspectives qui leur sont propres. Il faut utiliser cette élection pour l'exprimer collectivement, pour montrer que le camp des travailleurs existe, qu'il est fier de ce qu'il représente. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on subit beaucoup d'attaques, mais en même temps, on fait tourner toute la société. Donc, on peut être fier de ce que l'on est et affirmer effectivement ses besoins et ses perspectives. Donc, pour moi, c'est un vote pour conforter notre camp. Et ça se passe effectivement au premier tour. Donc, il n'y a aucune raison pour que on s'empêche, le NPA et nous, lutte ouvrière, de faire une campagne avec nos nuances, avec nos différences. Je crois qu'on sera deux, y compris souvent à taper sur le même clou, ça sera très bien. 2 contre 9, hein. Donc c'est pas beaucoup, vous vous dites compte.
2 contre 9, vous êtes une candidate communiste.
Oui.
Vous revendiquez le fait d'être communiste. Le Parti communiste, lui, a choisi Jean-Luc Mélenchon.
Pauline Tadevin, qui n'est pas communiste.
Pauline Tadevin, vous avez comparé le programme de Nathalie Arthaud et de Jean-Luc
Mélenchon. Oui, finalement, quand on regarde vos deux programmes, il y a pas mal de points communs. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Bon, il y a 2-3 points là que je vais citer. Bon, le retour du départ à la retraite à 60 ans. Vous êtes sur la même position avec Jean-Luc Mélenchon.
37 annuités et demie de cotisation aussi.
La réduction du temps de travail, vous êtes pour, bien entendu. Jean-Luc Mélenchon dit 32 heures. Vous dites quoi, vous, Nathalie Arthaud ?
La différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas tellement sur ses mesures, c'est sur comment on peut les obtenir. Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il suffira de voter pour lui, et puis alors, une fois au pouvoir, il va faire les choses. Hein. Moi, je dis aux travailleurs, non, ça, c'est faux. Hein, il n'y aura pas de sauveur suprême, les choses ne tomberont pas d'en haut. C'est un combat qu'il faut imposer, effectivement, au grand patronat. Parce que là, effectivement, on lui marche sur les pieds. Là, ça veut dire renier hein, les profits du patronat, ça veut dire attaquer son pouvoir, aujourd'hui, de tout accaparer. Donc, c'est un combat social qu'il faudra mener. Et s'il n'y a pas cette force sociale, s'il n'y a pas cette mobilisation, la réalité, c'est qu'on n'avancera pas dans cette direction.
Mais vous critiquiez tout à l'heure les représentants de la grande bourgeoisie. Vous pensez véritablement que Jean-Luc Mélenchon est un de ces représentants de la grande bourgeoisie? Ça doit lui faire plaisir?
Je pense que Jean-Luc Mélenchon est, voilà, considère, comme les autres candidats, hein, ça fait partie de ses points communs avec les autres candidats, qu'on ne peut pas faire sans cette classe capitaliste, que de cette classe capitaliste dépend la vie économique, les emplois, la prospérité, hein, et que donc forcément, il faut faire une politique qui lui convienne aussi. C'est-à-dire que toute sa politique, c'est de nous faire croire qu'on va concilier comme ça le chou et la chèvre. Eh ben moi, je suis désolée, ça marche pas comme ça. Et vous savez, il y en a d'autres avant lui qui nous ont fait croire à cela, hein, qu'on pouvait à la fois faire une politique favorable au patronat, d'ailleurs, donc il met aussi en avant cette mesure, vous savez, de baisser l'impôt sur les sociétés, un certain nombre de mesures favorables au patronat. De mon côté, non.
Baisser moi,
de
la
mon
TVA côté, je aussi, dis. Vous voulez la supprimer?
Pardon?
Complètement. Baisser la TVA aussi, il veut baisser la TVA sur les produits, oui, de première nécessité. Vous voulez complètement supprimer,
oui, parce que je pense que c'est l'impôt le plus injuste, d'ailleurs tout le monde s'accorde pour le dire, hein, eh bien il faut commencer par le supprimer.
Mais sur plusieurs mesures, vous allez dans le même sens, Nathalie.
Sur les pots. Alors, dans le même sens, mais encore une fois, moi je ne crée pas d'illusions, je ne dis pas qu'il suffira de... C'est pas la vertu du bulletin de vote, ça ne s'est jamais passé comme ça. Vous savez, M. Hollande, en 2012, il avait expliqué que lui aussi, hein, il allait mener une politique confiscatoire, souvenez-vous, les 75%. D'imposition pour les plus riches. Ça avait fait couler beaucoup d'encre, souvenez-vous. Hein, et on en avait parlé pendant toute la campagne.
Il a voulu la mettre en place.
Il avait une grande volonté de la mettre en place, n'est-ce pas? N'empêche que, voilà, elle n'a pas été mise en place. Donc, voilà, moi, je dis au travers, attention aux illusionnistes. Voilà, la réalité, c'est que la condition ouvrière, elle n'a avancé qu'en se manifestant, qu'en faisant grève, qu'en imposant un rapport de force. Rien n'est jamais tombé d'en haut, c'est pas vrai.
Jean-Luc Mélenchon est un illusionniste, dites-vous, mais Jean-Luc Mélenchon, sur la base de ses propositions, qui ne sont pas si loin, en tous les cas, il y a des points que vous pourriez signer, il est à 15% dans les sondages, il est devant le Parti Socialiste, c'est pas arrivé depuis des années, il faut peut-être remonter 1969 pour voir un candidat représentant le Parti Communiste être aussi haut dans les sondages. Ça vous fait pas envie? Sa position, vous avez...
Écoutez,
pas envie.
Moi, je peux vous dire que les illusions dans la gauche gouvernementale, depuis déjà un bon bout de temps.
Mais lui-même, justement, dit qu'il n'est pas de la gauche gouvernementale.
Ah bon, pas de la gauche gouvernementale? Son modèle, c'est M. Mitterrand. Je peux vous dire que beaucoup de travailleurs, beaucoup d'ouvriers, hein, qui ont un certain âge, savent ce que ça veut dire. Hein, son modèle, c'est effectivement Mitterrand. Et de nous dire... Moi, je me souviens aussi que Mélenchon a fait la campagne de Tsipras. Hein, avant que Tsipras arrive au pouvoir, attention, hein, Tsipras allait faire ci, allait faire ça, et puis c'était toute sa politique. On a vu Tsipras au pouvoir. Tsipras, il a gagné, lui. Hein, il a gagné. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait contre cette puissance?
Il l'a critiqué depuis. Hein.
Cette puissance. Ah, mais bien sûr. Maintenant que Tsipras s'est couché, hein, Mélenchon critique. Mais pas avant. Avant, il n'a jamais dit, attention, il ne se passera rien s'il n'y a pas un rapport de force. Moi, je le disais. Parce que la réalité, c'est ça. Encore une fois... Vous savez, l'histoire toute l'histoire de mon mouvement ouvrier le montre.
Il peut évoluer. Là, vous le renvoyez à sa situation d'ancien ministre de François Mitterrand. Mais Jean-Luc Mélenchon, depuis, est allé plus loin. Il a quitté le Parti Socialiste, il a fondé un mouvement, il s'est rapproché du Parti Communiste. C'est plus le même Jean-Luc Mélenchon que les années Mitterrand.
Quand est-ce que le sort des travailleurs a changé par la vertu du bulletin de vote? Jamais. Toute l'histoire montre que tout ce qu'ils ont obtenu, la moindre avancée, ils l'ont arraché par leur grève, leur manifestation, leur mobilisation.
81, juste au lendemain de 80, ils obtiennent quand même des choses.
Donc la réalité, c'est que... Et en 83, c'était la rigueur, parce que le grand patronat demandait la rigueur. Donc la réalité, c'est ça, c'est que sans les luttes ouvrières... Regardez ce qui se passe en Guyane. Vous croyez que s'il n'y avait pas eu la levée de la population guyanaise, il y aurait deux ministres aujourd'hui à écouter les revendications de la population et qu'ils viendraient avec un peu d'argent dans... qu'ils mettraient un peu d'argent sur la table.
Ce qui se passe en Guyane, que vous espérez ça. Ce qui se passe en métropole.
Absolument. Et je pense que ce que font aujourd'hui les travailleurs en Guyane, ça leur ouvre bien plus de perspectives pour défendre leurs conditions de vie, leur travail, leur salaire, que le bulletin de vote. Bien plus de perspectives. Voilà, moi, la différence essentielle, c'est que je ne fais pas de promesses électoralistes. Je dis aux travailleurs, oui, il faut se battre, il faut résister dans les entreprises, s'unir collectivement, défendre nos intérêts. Jean-Luc Mélenchon, ça dépend du rapport de force des luttes collectives.
Nathalie Arthaud, quand Jean-Luc Mélenchon dit effectivement qu'il veut interdire les licenciements boursiers. Il ne va pas aussi loin que vous qui voulez interdire complètement les licenciements, certes, mais quand il dit qu'il veut instaurer un droit pour que les employés puissent destituer les chefs d'entreprise s'ils le veulent, vous dites la même chose.
Alors d'abord, je l'ai très peu entendu défendre cette idée-là, honnêtement.
Mais il l'a défendu.
C'est pas là-dessus qu'il fait sa campagne, manifestement. Et moi, ce que je dis aux travailleurs, c'est que effectivement, le bras de fer, il va falloir aller jusqu'au bout. Si la BNP Paribas refuse d'annuler ses licenciements, alors qu'elle a réalisé ces suppressions d'emplois, parce qu'il n'y a plus de licenciements maintenant, hein. C'est un mot tabou, hein, il parle de suppression d'emplois toujours. Donc, s'il refuse, alors qu'elle a fait 7,7 milliards de bénéfices, eh bien moi je dis, oui, il faudra se battre jusqu'à la menacer d'être expropriée, que les propriétaires, les actionnaires de la BNP Paribas soient expropriés, qu'on réquisitionne ces grandes banques et qu'on les fasse marcher, effectivement, là, véritablement, pour le profit de l'économie. Des petites entreprises qui attendent d'avoir du crédit pour, effectivement, réaliser leur activité. Donc, c'est un véritable bras de fer. De toute façon, tant qu'on ne dit pas qu'on est prêt, effectivement, à combattre les fortunes de la bourgeoisie, son pouvoir, eh bien, on se voue à renier les quelques promesses favorables qu'on a fait vis-à-vis des travailleurs.
Donc, ça, il ne va pas assez loin, Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas seulement qu'il ne va pas assez loin, c'est que c'est toujours des promesses électoralistes, et voilà, c'est le sauveur suprême, mais ça, ça n'existe pas. Pas d'illusion, il faut de la conscience.
Si vous n'êtes pas au second tour,
ce qui est probable,
vous appellerez à voter, et si Marine Le Pen est au second tour, est-ce que vous appellerez à voter contre Marine Le Pen? Est-ce que vous appellerez à voter pour le concurrent qui sera face à elle? Quelle sera votre position, sachant que la situation s'est déjà présentée en 2002? Quelle sera la vôtre, Mme Arthaud?
Moi, je m'échine à essayer de faire comprendre aux travailleurs que choisir le futur président de la République, c'est-à-dire celui qui va encore baisser les retraites, qui va attaquer nos conditions de travail et de vie, ne rime à rien quand on est un ouvrier, quand on est un chômeur. Il faut faire un vote de conscience, il faut lever le drapeau des luttes collectives dans cette élection et faire donc conforter notre camp, prendre conscience qu'on n'est pas seul à être en colère et à être révolté contre le sort qui est fait aux travailleurs. Et ça, ça se fait seulement au premier tour. Au deuxième tour, il ne se passe plus rien pour les travailleurs. Enfin voilà, il n'y a plus que des ennemis de la condition ouvrière.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'être venue nous voir ce soir.